Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère 88.4, animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui anime l'émission. Je suis avec Bernard. Bonjour Bernard.
Bonsoir Jean-Yves.
Et je suis Jean-Yves. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter les pages Facebook Palestine 13 et BDS Provence, en un mot. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence, toujours en un mot, @orange.fr. Merci à Sidi qui assure la technique aux manettes. Donc, quelques petites informations sur ce qui se passe autour de Marseille concernant la Palestine. Donc, le 1er juin, c'est-à-dire demain, le MUSEM organise une exposition autour du musée des futurs de Gaza. Ensuite, le 2 juin, Intervention divine, film d'Elia Suleiman, que vous pouvez aller voir au Gyptis. Et le 3 juin, Palestine, j'écris ton nom. Donc, c'est en fait une lecture de poèmes qui est faite par des artistes, poème de Mahmoud autour de Mahmoud Darwish. Et enfin, du 7 au 9 juin, vous pourrez voir le Festival Ciné Palestine. Alors, nous allons écouter Madame Assia Zaino, qui nous parle de ce Festival Ciné Palestine, qui, pour la première fois, fait étape à Marseille.
Le Festival Ciné Palestine est un festival de cinéma créé en 2015 à Paris et à Toulouse qui a comme objectif de mettre les artistes palestiniens et la Palestine sur les devants de la scène. En permettant la diffusion d'œuvres des cinéastes palestiniens ou qui évoquent la Palestine, le festival a pour ambition de mettre en valeur la qualité du cinéma palestinien et sa diversité. Dépassant les restrictions imposées par les frontières et par l'occupation israélienne, le Festival Ciné Palestine offre aux artistes palestiniens la possibilité de rencontrer leur public et de créer un espace de discussion, des rencontres et des débats autour du cinéma palestinien. Pour sa 8e édition, le festival débarque pour la première fois à Marseille avec 3 films exceptionnels. Pendant 2 jours, au Vidéodrome 2, nous rendrons hommage au travail politique, littéraire et militant de Hassan Kanafani, mort assassiné par le Mossad il y a 50 ans, en projetant 2 adaptations cinématographiques de ses œuvres littéraires majeures. Dans le cadre de notre focus féminisme, vous pourrez aussi découvrir le film inédit de Samah Al-Qadi, As I Want, au Gyptis, en présence de la réalisatrice. On vous attend donc nombreux et nombreuses au Vidéodrome le mardi 7 juin à 18h pour le film Retour à Haïfa, le mercredi 8 juin à 20h30 pour le film Les Dupes, suivi par une discussion avec Samia Chabani, directrice de l'association Ancrage, et le jeudi 9 juin au Gyptis à 20h pour le film As I Want, suivi par une discussion avec la réalisatrice Samah Al-Qadi. Parce que la résistance contre l'occupation passe aussi par le cinéma et les arts palestiniens. Merci.
Donc, Bernard va nous présenter maintenant un film d'Avi Moghrabi qui est visible sur arte.tv.
Oui, ce film est visible sur arte.tv parce qu'il a été diffusé la semaine dernière sur Arte. Et c'est un film du cinéaste israélien Avi Moghrabi qu'il a intitulé « Les 54 premières années » qui couvrent depuis 1967 à aujourd'hui, parce qu'il a sous-titré son film « Manuel abrégé d'occupation militaire ». Donc on connaît Avi Moghrabi dans son dernier film, donc « Les 54 premières années ». ce sont les militaires de l'époque qui témoignent de ces pratiques inhumaines, c'est-à-dire les pratiques de l'occupation. Mais ils reconnaissent que c'était les ordres. Donc, quelquefois, ils sont un peu désolés. Alors, Mograbi s'est pourvu d'une petite barbe blanche avec des cheveux mi-longs. Il renoue donc avec un peu d'excentricité pour créer son personnage, avec en main son manuel dit abrégé d'occupation militaire. Il décortique avec juste l'ironie qui lui est familière, hein, l'ironie suffisante, pour mettre à nu la violence, l'accaparement des terres palestiniennes, pour mettre en accusation le gouvernement et l'armée israélienne. Voilà, donc c'est en deux parties, mais c'est très très intéressant parce que c'est fait de telle façon que les militaires se confient à nous. Les questions ont été coupées, donc c'est très très intéressant parce que ces militaires qui ont un âge avancé, maintenant ils ont tous entre 55 et 60 ans, ils racontent leur vie, leur service militaire et ce qu'ils ont été obligés de faire. Et on voit bien par moments qu'ils sont très 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 malheureux et gênés d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Voilà.
Bien, merci Bernard de ces explications. Effectivement, j'ai regardé la première partie. Ça serre les tripes. Hein. Tout ce qui est montré, les images d'archives aussi, enfin, vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'assassinat de Shirin Abu Akleh, la journaliste américano-palestinienne, je ne sais pas s'il faut dire dans cet ordre-là ou pas, assassinée par l'armée israélienne. Et donc Israël a annoncé que, en fait, ils ne veulent pas faire d'enquête sur cet assassinat parce que, de toute façon, aucune faute n'a été commise. Et ils ont dit que ce soit une balle palestinienne ou israélienne qui l'ait tué, il n'y a aucune faute, sachant que effectivement, c'est a priori, il s'agirait bien d'une balle israélienne. Et puis, quand vous serez dans l'isoloir, Macron a demandé au principal accusé, c'est-à-dire Israël, de mener l'enquête sur cet assassinat, qui refuse donc. Et à l'époque de Landru, Macron aurait confié à Landru l'enquête sur les disparitions de femmes à Gambé, hein, voilà. Puisque c'est le responsable de l'assassinat que l'on demande d'enquêter, au responsable de l'assassinat.
Alors, il semblerait que tout ait été dit sur cet assassinat, hein, mais la façon dont nos interventions ont été montées, je crois que c'est très intéressant parce qu'on voit très bien les avancées dans la reconnaissance du tir israélien, puis des reculs, parce que finalement, on n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même processus où pointer Israël est évidemment incongru et une erreur. Donc le New York Times, qui est quand même pas n'importe quel journal, même lui joue un petit peu de mouvement d'avancée et de recul pour authentifier d'où vient la balle, en gros, hein. Alors, il y avait un truc très simple qui était d'extraire la balle et de voir de quel fusil elle venait. C'était très simple.
Mais en fait, la balle a été extraite et c'est les Palestiniens qui l'ont et ils ont refusé de la donner aux Israéliens parce qu'ils n'ont pas confiance dans sa façon de mener les enquêtes.
Voilà, ils la font expertiser. Ouais. Et Macron se range à leur décision.
Voilà. On verra bien ce qu'il en sera. Alors, avant de parler de cet assassinat, rapidement, quelques petits articles sur le site de l'UJFP, Union juive française pour la paix. J'ai trouvé un article qui s'intitule « Général, nous voilà » et qui a repris un article du journal L'Écho des Vosges, dans lequel un général de corps d'armée, Jean-Philippe Houdinet, étale sa xénophobie crasse et son islamophobie fantasmatique. En fait, il dit que certaines populations immigrées, pour ne pas s'intégrer, creuseraient le fossé par des interdits religieux et alimentaires. Si l'alcool n'est pas interdit dans le Coran, il serait utilisé pour empêcher l'intégration des musulmans dans la grande confraternité alcoolique des bistrots. En fait, ces délires racistes s'appuient sur un bel exemple d'antisémitisme. Ainsi, le général a déclaré « Les Juifs, avec leurs interdits alimentaires rigoristes et leurs coutumes familiales, se sont protégés de la culture du pays d'accueil. Preuve de l'islamophobie par l'antisémitisme. » Voilà. Donc, en fait, il faut toujours être impitoyable contre toutes les formes de racisme. Ici, islamophobie, ailleurs, négrophobie, anti-tsiganisme, etc. Et puis, des articles de ces dernières heures, de hier et aujourd'hui, dans Le Monde. Donc, si vous voulez aller voir Le Monde de ces deux derniers jours, une tribune de Ronnie Broman qui dit « Face à Israël, l'invasion, la dépossession, l'annexion des territoires palestiniens ne conduisent pas à des sanctions. » Il dit « L'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre qui s'en est suivie relègue en coulisses la quasi-totalité du monde non européen. On pourrait se réjouir que progresse le droit international à travers les réactions occidentales, donc le respect de la souveraineté dans ce cas-là d'inattaquable. Les mesures prises de rétorsion prises à l'encontre de la Russie relèvent du boycott, des investissements, sanctions au nom du droit international que l'Europe a adopté. En ce même nom, elle ne peut se détourner des violations commises sous occupation militaire israélienne en Palestine. On attend donc d'elle qu'elle cesse l'importation de biens et services produits dans les colonies sous peine d'entretenir une occupation qu'elle dénonce par ailleurs. Il faut savoir qu'une initiative citoyenne européenne, ICE, intitulée Stop Settlements, est en cours, qui vise à rassembler 1 million de signatures appelant à l'interdiction du commerce avec les colonies implantées dans les territoires occupés. Vous devez soutenir cette campagne. Vous trouverez sur le site de l'UJFP, sur le site de la FPS, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller signer pour cette initiative. Et puis un autre article toujours dans Le Monde, du correspondant du Monde en Israël, qui parle d'un déferlement de haine anti-arabe dans les rues de Jérusalem. C'était à propos de la marche des drapeaux de dimanche dernier, qui célèbre la conquête de la partie orientale de Jérusalem par Israël en 1967. Et donc, il y a eu une marche des drapeaux à travers les quartiers palestiniens avec 70 000 personnes qui ont défilé dans la vieille ville sous la protection de 3 000 policiers. Et dans cette marche, donc, en fait, on a vu des violences ponctuelles. Par exemple, un Israélien qui brandit un pistolet contre des Palestiniens. Il y en a un autre qui asperge de gaz au poivre une vieille femme palestinienne, tandis que l'un de ses camarades la frappe du pied. Et une civière du croissant rouge évacue cette femme sous des jets de bouteilles. Des jeunes gens chantent « Mort aux Arabes, le prophète Mahomet est mort, que votre village brûle » et le refrain « Chouafat est en feu » en référence au meurtre de l'adolescent palestinien Mohamed Abou Kdeir, brûlé vif en 2014. Donc voilà, Israël devient un État, enfin devient de plus en plus, disons, un État raciste. Voilà. Donc on va revenir sur l'assassinat de Shirin Abu Akleh, mais on va commencer par montrer qu'en Palestine, c'est pas d'aujourd'hui que date la pression qu'Israël met sur les journalistes.
Oui, c'est encore Reporters sans frontières qui soulève le problème sur les traitements des journalistes palestiniens par l'armée israélienne, et ça bien avant le meurtre de Shirin Abu Akleh. La pratique du journalisme en Palestine est un exercice périlleux, d'autant que les tensions politiques y demeurent très vives. À Gaza, deux journalistes palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés par l'armée israélienne en couvrant jusqu'à aujourd'hui les marches du retour qui ont débuté en mai 2018. Vous vous souvenez de ces moments où les snipers étaient installés au fond à l'horizon et où avec des viseurs spécialisé. Il tapait dans les jambes, il visait les jambes des Palestiniens, et ils en ont énormément blessés, qui sont devenus des handicapés. En Cisjordanie, le recours par l'armée israélienne aux balles réelles pour disperser les manifestants expose les reporters à de sérieuses blessures. Au moins 3 journalistes palestiniens ont ainsi perdu définitivement l'usage de leur œil. Les arrestations de journalistes palestiniens par les forces israéliennes se sont aussi poursuivies, avec des interrogatoires et des détentions administratives, souvent sans motif. Accusés par les autorités israéliennes d'inciter à la violence, des médias palestiniens ont également été fermés de façon autoritaire ces dernières années. Les journalistes palestiniens continuent également à faire les frais de la lutte que se livrent le Fatah et le Hamas dans les territoires. Menaces, interpellations, procédures bâillon, arrestations sans inculpation, interrogatoires musclés, interdiction de couvrir certains événements. Ces tensions politiques, couplées à la pression des autorités israéliennes, compliquent fortement le travail des journalistes et poussent nombre d'entre eux à l'autocensure. Plusieurs sites de médias considérés comme d'opposition par l'autorité palestinienne, là il ne s'agit plus d'Israël, sont inaccessibles depuis 2017. La censure en ligne vient aussi parfois des plateformes comme Facebook ou Twitter qui retirent, sur pression politique israélienne, des posts ou des comptes de journalistes ou de médias palestiniens accusés d'inciter à la violence. Si certains des contenus supprimés abusivement sont bien remis en ligne après sollicitation des modérateurs des plateformes, les ONG locales continuent de dénoncer deux poids, deux mesures par rapport au contenu israélien et palestinien. Voilà, donc la liberté de la presse est un leurre, même en Palestine, dans la mesure où c'est Israël qui fait régler ce que l'on doit dire ou pas.
Et l'autorité palestinienne continue à assurer la sécurité d'Israël, même au niveau de ce qui se dit dans la presse, quoi, puisqu'ils emprisonnent des... Voilà. J'ai vu un article dans lequel il citait là une liste nominative d'une quarantaine de journalistes qui ont été assassinés par l'armée israélienne depuis l'an 2000. Hein. Donc, ce qui s'est passé avec Shirin Abu Akleh, c'est pas nouveau. Et ces derniers jours, là, c'est-à-dire hier, en fait, j'ai repensé à ça parce que tu as peut-être entendu parler du journaliste de BFM TV, je crois, qui a été tué
en Ukraine.
En Ukraine, là, parce qu'il a pris un éclat d'obus. Et bon, c'est vrai que c'est aussi un meurtre, mais dès aujourd'hui, tout le monde demande, mais il faut une enquête, c'est un crime de guerre, etc. Est-ce qu'on a entendu dans nos médias à nous la même chose sur le meurtre de Shirin Abu Akleh? J'ai pas l'impression. On a entendu parler un petit peu, parce que effectivement, il pouvait difficilement faire autrement, mais la sauce est quand même très vite retombée, et aujourd'hui, nos journalistes ont oublié cette affaire.
Non, mais on va le voir. C'est surtout le système du constat qui dit tout dans le cas de Shirin. On peut éventuellement dire, et puis dès que les informations semblent contrôlées par Israël, alors le recul a lieu et on dit que ça serait presque une balle perdue.
Voilà. Donc on va voir ça à travers les explications du site Arrêt sur Image. Arrêt sur Image, c'est un site donc qui fait l'analyse un peu de ce qui se passe, de ce qui est dit, de la façon dont certains faits sont traités par les médias, par nos médias. Voilà. Et donc leur article s'intitule « Meurtre de Shirin Abu Akleh, peut-on entendre les deux camps ?» Et il est sous-titré « Des limites de l'exposé du pour et du contre journalistique ». Voilà. Donc la journaliste Shirin Abu Akleh, qui était une figure star de la chaîne Al Jazeera, a été tuée d'une balle dans la tête en couvrant une opération militaire israélienne. Ses collègues témoins de l'attaque décrivent aussitôt une scène sans confrontation, à part l'assaut israélien, et ils imputent son meurtre à l'armée israélienne. Pourtant, les grands médias occidentaux, New York Times en tête, ont largement titré sur des affrontements inexistants, bien sûr, se refusant à trancher malgré les témoins puis les éléments matériels. Ces funérailles attaquées par la police israélienne ont ensuite donné lieu au même attentisme journalistique. On ne s'engage pas trop. Voilà.
La journaliste américaine, palestinienne Shirin Abu Akleh, était la voix des événements en Palestine, selon l'hommage qui lui a été rendu par son employeur, Al Jazeera. Originaire de Jérusalem et correspondante en territoire israélien et palestinien pendant 25 ans pour la chaîne, elle a été tuée sur le terrain le 11 mai 2022, alors qu'elle faisait un reportage à Jenin, en Cisjordanie. Selon Al Jazeera, qui annonce son décès tôt dans la matinale du 11 mai, Shirin Abu Akleh a été tuée alors qu'elle couvrait des raids de l'armée israélienne à Jenin. Elle portait, lorsqu'elle a été tuée, précise la chaîne, qui ajoute que le ministère palestinien de la Santé l'a déclarée décédée à 7h15 du matin. Al Jazeera condamne un meurtre flagrant et cite deux journalistes qui étaient auprès d'elle lors de l'attaque.
Donc ces journalistes-là disent « Nous allions filmer les opérations militaires israéliennes ». D'un coup, ils nous ont tiré dessus, sans nous demander de partir ou d'arrêter de filmer. La première balle m'a touché, dit le journaliste palestinien Ali Al-Samoudi, et la seconde a touché Shirin. Il n'y avait aucune résistance militaire palestinienne sur le terrain. La journaliste locale Shatta Anaïcha, qui se tenait juste à côté de Shirin Abu Akleh, confirme à Al Jazeera qu'il n'y avait aucune confrontation entre des combattants palestiniens et l'armée israélienne. Et que le groupe de journalistes dont elle, Ali et Shirin faisaient partie, a été directement ciblé. Elle précise même l'armée tirait pour tuer. Voilà.
Alors il faut noter qu'au Moyen-Orient, cette journaliste était un visage médiatique connu de tous. La voix de la Palestine, toujours selon Al Jazeera, sa terre natale et un terrain qu'elle couvrait depuis 25 ans. Shatta Anaïcha, la journaliste qui était à ses côtés lors de son meurtre, raconte à Middle East Eye, « C'est avec cette journaliste que j'ai grandi, en imitant ses reportages, du ton de sa voix, ses gestes, des mains. Je rêvais de faire ce qu'elle faisait toujours si bien. » Alors, on voit là qu'elle servait d'exemple dans la profession. C'est d'autant plus dramatique. Notre présentatrice Nassira El Moadem se souvient elle aussi avoir grandi avec Shirin par l'intermédiaire d'Al Jazeera. Il n'y a pas eu une famille maghrébine en France qui ne connaît pas cette femme. Même si on n'est pas engagé politiquement, c'est un visage familier. On était tous choqués, indique-t-elle, à propos de sa propre famille. Elle a incarné vraiment une figure de courage parce qu'elle était une femme, même si elle n'était pas la seule, et parce qu'elle couvrait la Palestine, par définition, l'un des terrains les plus couverts par la chaîne. Précisons Al Jazeera, c'est pas une autre chaîne que celle d'Al Jazeera qui couvre énormément la Palestine.
Et donc le New York Times, on voit qu'il hésite là et toujours en risquant de tomber du côté israélien, parce que le premier article du New York Times au sujet de cette attaque mortelle, il est publié à 8h35 heure locale le 11 mai. Il annonce sa mort en mentionnant des affrontements. Exemple, les circonstances de la mort de la journaliste n'étaient pas immédiatement claires, mais elle a été tuée par balle alors que des affrontements opposaient l'armée israélienne et des combattants palestiniens. Cet article est ensuite plusieurs fois mis à jour et enrichi. Le New York Times choisit de citer les deux camps de manière équivalente. La chaîne Al Jazeera et les autorités palestiniennes accusent les troupes israéliennes du meurtre. Israël a déclaré que la faute pourrait être du côté de tireurs palestiniens. Surtout, on ne s'engage pas. Alors que les journalistes qui étaient sur place ont bien dit « c'est Israël qui a tué ». Et il cite ensuite les communiqués d'Al Jazeera et de l'armée israélienne, chacun défendant sa position. Et le même jour dans la matinée, entre 9h34 et 10h45, le titre est modifié pour supprimer la référence aux affrontements au fur et à mesure que les journalistes du New York Times contactent directement les témoins, notamment Ali Al-Samoudi. Et depuis son lit d'hôpital, il confirme qu'il n'avait pas d'affrontement sur le terrain. Mais dans la même version de l'article, on dit toujours qu'elle est morte alors que des affrontements opposaient l'armée israélienne et des combattants palestiniens. On voit bien que quand on lit des articles de nos journaux occidentaux, il faut toujours le faire avec relativement de... en se disant qu'est-ce que c'est qui est vrai, qu'est-ce que c'est qui est faux, quoi.
D'abord, où est la Palestine? Sous quelle botte étoilée? Derrière quel barbelé? Sous quel champ de ruines? Question d'histoire encore, combien de victimes? Combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps deviendront combattants? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaky? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa? Pour flinguer les lois? Combien de petits blancs, de colons arrogants se partagent la terre et combien de misère pour le peuple kanak? Combien de coups de matraque? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, moi. Question de sport, qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent, derrière des barreaux? 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien dehors la loi, j'ai ces petits juges en bois dont on fait les salauds? J'en sais rien, je donne ma langue chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question science et nature, où balancer ces sordures? Allez à la Vologne, ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent. Question de littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres et beaux, libres mais dans le troupeau, égaux devant les bourreaux? J'en sais rien, comme ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Souffre-moi. Moi, j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. c'est toi. Souffle-moi. Souffre-moi. Souffre-moi. J'en sais rien. Je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi.
On reprend notre article d'Arrêt sur image qui détaille ce qui s'est passé dans les médias occidentaux avec l'assassinat de Shirin Abu Akleh. Et donc on en était dans le fait que les médias parlent beaucoup d'affrontements alors qu'il n'y en avait pas.
Donc on se retrouve quand même devant une erreur supplémentaire du New York Times qui a aussi jeté de l'huile sur le feu lors de très nombreuses mises à jour de l'article ce 11 mai. Un tweet posté en journée clame « Al Jazeera a dit que l'une de ses journalistes a été tuée dans la ville de Cisjordanie durant ses affrontements. Pourtant, la chaîne n'a jamais parlé d'affrontements. Beaucoup d'internautes s'émeuvent immédiatement de l'erreur du quotidien. L'écrivain et analyste politique américano-palestinien Youssef Mounahir compare la version du New York Times avec ce qu'a vraiment dit Al Jazeera dans son communiqué et conclut « Ce n'est vraiment pas si compliqué de ne pas se tromper ». Le New York Times met ensuite plusieurs heures à corriger l'erreur avant de supprimer le tweet et d'en publier un autre avec correction. Une rectification est également apportée en fin d'article. Une version précédente de cet article déformait les commentaires d'Al Jazeera concernant la mort de Shirin Abu Akleh, précise-t-elle. Le journal états-unien a au moins mesuré l'ampleur du choc provoqué au Moyen-Orient par la disparition de la journaliste. Toute une rubrique lui est consacrée dans les heures suivant sa mort, dont une nécrologie qui retrace sa carrière et le fait qu'elle inspirait de nombreuses consoeurs, un reportage à ses funérailles et une analyse des enquêtes des autorités israéliennes et palestiniennes sur les circonstances de l'attaque.
Donc là, on parlait du New York Times, mais le New York Times est loin d'avoir été le seul média occidental à décrire des affrontements entre combattants palestiniens et soldats israéliens sur la scène de crime. C'est France 24 qui fait ainsi le choix étrange de retirer une précision de son article. Dans la première version, il titrait « Une journaliste d'Al Jazeera tuée par un tir de l'armée israélienne en Cisjordanie ». Et il annonçait cet article que la journaliste, une des plus connues de la chaîne arabe Al Jazeera, était tuée mercredi matin par un tir de l'armée israélienne alors qu'elle couvrait des affrontements. Mais après une mise à jour, la mention du tir de l'armée israélienne a été supprimée partout où elle figurait, alors qu'ils ont laissé, ils ont continué à parler d'affrontements. Et donc le site d'Arrêt sur image avait contacté l'adjoint à la directrice de France 24, qui est en charge de la chaîne en français. Donc il explique que le média a relayé les informations fournies par les dépêches de l'AFP et de Reuters, parce qu'ils n'avaient pas de journalistes sur place directement témoins. Les premières dépêches AFP, dit-il, indiquaient que Shirin Abu Akleh a été tué mercredi matin par un tir de l'armée israélienne, avec pour source un journaliste de l'AFP. L'armée israélienne, de son côté, a formellement démenti être à l'origine du tir. Donc, pour nous, il était impossible de titrer sur un tir israélien. Voilà. Donc si là, l'armée israélienne dit ça, journalistes ont beau dire autre chose.
Non, mais c'est là qu'on voit quand même qu'un organisme comme France 24, qui est une chaîne d'information mondiale française, prend ses informations plutôt côté israélien qu'au côté témoin. Les témoins disparaissent comme capables d'authentifier la situation. Oui, après, il y a des enquêtes du New York Times, roi du bot Cisdesim, le faux équilibre, comme ils disent, le deux-campisme. C'est-à-dire, l'idéologie des deux camps, des deux paroles de chaque côté.
Ce qu'on disait, et surtout, on ne prend pas parti.
Ce qu'on disait sur l'objectivité, souvent sur cette émission, l'objectivité, c'est 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour Hitler. Je m'excuse de ce retour vers le point Goldwyn, mais c'est quand même très très bien de vérifier ça avec cette citation qui est de Jean-Luc Godard. Donc
Donc Sarah Grira, c'est une journaliste de Orient 21. Elle s'était émue sur Twitter de la couverture médiatique naissante. Donc ils avaient au téléphone la journaliste qui était avec Shirin Abouaklé, et elle racontait ce qui s'est passé, et ils ont reçu l'enregistrement de la scène, et tout de suite ils l'ont montré, et tout ce que venait de raconter cette consoeur journaliste était confirmé par les images qu'on voyait. Si une journaliste est tuée par balle devant plusieurs journalistes qui tous disent qu'il n'y avait aucun combattant palestinien armé sur les lieux, simplement des troupes israéliennes qui leur tiraient dessus, cela est suffisant, ou en tout cas devrait l'être, suffisant pour les journalistes écrivant l'article et ceux qui rédigent le titre pour ne pas mentionner des affrontements qui n'ont pas existé. Et cette tendance du New York Times, donc, à chercher systématiquement l'équilibre entre affirmations opposées, c'est l'exposé du pour et du contre, both sidesism ou deux campismes, faux équilibre en français. Le même reproche est fait plus généralement à l'ensemble des grands médias occidentaux. Donc la conclusion, c'est que la présentation qui est faite par les médias occidentaux de l'agression d'Israël dans les territoires palestiniens comme un conflit d'ego, EGAUX, entre égalité entre Israéliens et Palestiniens, cette vision, cette présentation est totalement fausse et biaisée et recense plusieurs usages journalistiques qui sont à bannir. Des termes comme « des violences ont éclaté », « des affrontements », « une bousculade » effacent la réalité de ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire une attaque de l'armée israélienne contre des Palestiniens qui ne faisaient rien. Il n'y avait pas des journalistes qui étaient là pour faire leur métier.
Quand on parle d'affrontement, en général, on fait bien attention d'observer qu'il y a des forces égales en présence, ou en tout cas des forces en présence et qui ont des moyens identiques. Or là, l'armée israélienne tire souvent et presque toujours sur des gens désarmés, donc on ne parle pas d'affrontement, pas possible.
On ne devrait pas.
Donc, on a une autre version de toutes ces méthodes des médias qui est la relativisation de la violence israélienne. Le New York Times aurait dû écrire « Une journaliste d'Al Jazeera a été tuée par une attaque injustifiée des troupes israéliennes », estime Nina Montegu Smith. Le mot « affrontement » donne l'impression que l'on parle de deux camps ayant des forces et des ressources égales, ce qui est l'opposé de la vérité en ce qui concerne la Palestine, explique-t-elle. De manière générale, à propos de la couverture d'Israël et de la Palestine, dans la plupart des médias, décrire une attaque frontale injustifiée comme un affrontement, c'est biaiser contre les victimes et suggérer qu'elles sont responsables de leur sort. Or, le rôle d'un journaliste est de ne pas prendre parti. Et dans ce cas du meurtre de Shirin, il n'y avait pas de Palestiniens armés dans les environs du tout. Voilà, donc Montagu Smith reproche à de nombreux grands médias occidentaux, comme le New York Times ou le Washington Post, mais aussi les agences de presse, Associated Press ou Reuters, d'être prompt à relativiser le récit d'événements lorsqu'il concerne la violence israélienne. La dépêche d'Associated Press soulignait ainsi le fait que la ville de Jenin est connue pour être un bastion militant palestinien et qu'Israël a été la cible d'attaques mortelles de la part de Palestiniens, ce qui est une distorsion de la réalité, dit la journaliste, en citant la disproportion du nombre de tués en 2021, 320 Palestiniens lors d'opérations israéliennes contre 9 Israéliens par des bombes palestiniennes, qui ont aussi tué 20 Palestiniens. Sarah Grira partage ce constat sur la couverture du conflit par les médias occidentaux. À minima, on va toujours donner le bénéfice du doute à l'armée israélienne. Voilà, là aussi.
Donc, on sait que la propagande de l'armée israélienne, elle est quand même très, très puissante et très implantée chez nous.
Oui, voilà. On peut même dire que chez nous, c'est la propagande par l'omerta.
Tout à fait. Donc, une fois qu'on a parlé l'assassinat par l'armée israélienne de la journaliste, donc sont venues ses funérailles. Et là, rebelote, les funérailles ont été attaquées par la police israélienne. Le 13 mai, c'était les funérailles de Shirin Abu Akleh, donc elles ont été violemment perturbées par la police israélienne qui a attaqué le cortège funéraire et frappé les porteurs du cercueil avec des matraques. Un des hommes qui portait le cercueil et l'a défendu pendant l'attaque policière a ensuite été arrêté et interrogé sur les événements. Les images qui en ont découlé, agents israéliens casqués en uniforme de maintien de l'ordre se pressant contre le cercueil de la journaliste et frappant les Palestiniens endeuillés, ont été abondamment reprises. Mais ces images ont souvent été accompagnées des mots et expressions biaisées dont on a déjà parlé à propos de la couverture médiatique de sa mort. Donc, les agences de presse, Reuters, CBS, BBC, etc., ont décrit cette attaque comme un affrontement provoquant une nouvelle onde de choc en ligne. On a des images live du cercueil qui manquent de tomber par terre parce que des militaires israéliens frappent la foule et il y a des médias qui, d'une façon très sérieuse, nous parlent de hurt en français et clashes en anglais et regrettent une journaliste franco-algérienne. Honte à vous, dit-elle, et un journaliste libanais, Rancheri, cela met honteusement sur le même plan les victimes et les agresseurs. Le Monde, quant à lui, a opté pour une formule qui n'engage pas grand-chose. Des violences ont éclaté.
Oui, mais là, on rentre dans quelque chose d'encore plus épouvantable, à mon avis, parce que déjà que les Israéliens ne respectent pas les vivants, ils ne respectent pas les morts non plus. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du jamais vu, ça. Attaquer un enterrement parce que le cercueil est recouvert de drapeaux palestiniens, oui, comme le dit la journaliste franco-algérienne, honte à vous, c'est une honte absolue qu'au moment de l'enterrement, on ne puisse pas laisser la population tranquille enterrer ses morts. C'est une horreur et je crois que ça, cette séquence qui a été montrée à la télévision, mais pas énormément dans les télévisions françaises, en tout cas pas la totalité, et pas l'agression permanente de l'armée israélienne sur le cortège, je crois que ça, c'est vraiment révulsif pour tout le monde. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'endroit où ça peut se passer sans rien dire. C'est épouvantable. Donc, nos gouvernants qui sont si sensibles aux morts ukrainiens feraient bien de regarder un petit peu ce qui s'est passé là et avoir les mêmes cris que ceux qu'ils ont pour les Ukrainiens qui ont été dégommés par les Russes en pleine rue.
Cette façon de faire participe un peu à autre chose que fait l'armée israélienne, c'est quand ils tuent des Palestiniens, très souvent, ils ne rendent pas les corps à la famille, alors que la famille, elle veut les enterrer, bon, il y a des rites à respecter, etc. Et donc, ils ne leur rendent pas les corps, ou alors ils le rendent très, 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 très longtemps après qu'ils aient été tués.
Ça fait partie des punitions
collective.
Voilà. Collective. Et lorsque j'étais en Palestine, j'ai été très étonné d'entendre à Naplouse la personne qui nous recevait nous expliquer que non seulement il les rendait très tard, mais quelquefois, si on faisait des analyses ADN, c'était même pas les corps de leur famille, parce que l'ADN ne correspondait pas au leur. Voilà. Donc c'est encore plus grave, c'est vraiment épouvantable. Ensuite, alors, une journaliste, Nina Montegu-Smith, de l'Institut pour les médias d'Al Jazeera, se demande à quoi ressemble la couverture médiatique du meurtre d'un journaliste ukrainien tué d'une balle dans la tête par un sniper russe et dont le cortège funéraire serait ensuite attaqué. Je ne pense pas que le vocabulaire utilisé pour décrire les coupables serait aussi indulgent. Ce genre de journalisme est irresponsable. Il met directement la vie de reporter en danger. Si les médias occidentaux tenaient sérieusement Israël responsable, les autorités réfléchiraient à deux fois avant d'assassiner un journaliste qu'ils n'aiment pas. Pour le moment, rien n'empêche d'autres meurtres de ce genre de se reproduire. Oui, et ça, c'est bien le truc de l'omerta, c'est-à-dire que tant qu'on dit rien, c'est l'impunité totale. Hein. Nos gouvernants, quand on crie dans les manifestations « Macron responsable », c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il se tait. Et le silence rend complice des horreurs commises. D'autres soulignent que là où le journaliste américain Brent Renaud, correspondant en Ukraine, a été décrit par le New York Times comme tué par les forces russes lorsqu'il est mort sur le front le 13 mars dernier, la nécrologie de la journaliste Shirin Abu Akleh l'annonce simplement comme morte. La journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh meurt à 51 ans. Le titre de la nécrologie a ensuite été modifié pour indiquer qu'elle avait été tuée par un coup de feu, est-il toujours et seulement précisé dans le corps du texte. Cela a poussé l'association Jewish Voice for Peace a corrigé elle-même sur Twitter ce titre initial. La journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, assassinée par un sniper israélien alors qu'elle portait un gilet pare-balles et couvrait des violences de l'armée israélienne. En légende, une correction sous forme de demande, correction pour le New York Times, s'il vous plaît.
C'est une leçon de journalisme, effectivement.
Voilà.
Les journalistes, ils ne font pas correctement leur travail.
Contactez les journalistes les services de communication du New York Times et du Monde ne nous ont pas répondu, pas plus que les journalistes du bureau de Jérusalem, le New York Times.
Ça, je pense. En général, arrêt sur image, en fait, ils interrogent.
Et oui.
Ils voient différentes sources et ils demandent aux journalistes pourquoi vous avez dit ça, sur quoi vous appuyez, etc. Et là, effectivement, en l'occurrence, ils n'ont eu aucune réponse. Donc voilà. Alors, par la suite, donc, on a trouvé un autre article, donc, dans Le Monde, qui parle d'une communication, d'une enquête de CNN. Donc, CNN, chaîne américaine, donc pour une fois qui a peut-être fait son boulot correctement, a fait une enquête, et dans cette enquête, il pointe la responsabilité exclusive de l'armée israélienne. Il s'appuie notamment sur l'analyse de plusieurs vidéos, et la chaîne affirme que, contrairement aux déclarations d'Israël, aucun affrontement ne se déroulait près de la journaliste, qui a été tuée, selon CNN, dans une attaque ciblée de l'armée israélienne. Elle était vraiment visée.
Et au lendemain des premières conclusions de l'enquête préliminaire menée par l'armée israélienne sur la mort à la mi-mai de la journaliste en Cisjordanie occupée, la chaîne de télévision américaine CNN a annoncé mardi 24 mai avoir réuni de nouvelles preuves accablant la défense israélienne. La reporter pour la chaîne d'information Al Jazeera s'était rendue à Jenin en Cisjordanie occupé au matin du 11 mai pour suivre des affrontements armés qui avaient éclaté au cours d'un nouveau raid de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés de la ville. Ces interventions militaires se sont multipliées depuis le début d'avril, après que plusieurs attaques dans lesquelles des Israéliens et des étrangers ont été tués. ont été perpétrés par des Palestiniens. Ce mercredi 11 mai, Shirin Abu Akleh a été tué d'une balle qui l'a touché à la tête. Des témoins, des responsables palestiniens de son employeur ont accusé l'armée israélienne d'être à l'origine des tirs.
Par contre, l'armée israélienne ainsi que le gouvernement israélien s'est vivement défendu. Le premier ministre, Naftali Bennett, a même affirmé que la responsabilité de Palestiniens armés dans la mort malheureuse de la journaliste était probable. L'enquête préliminaire a établi par contre que si l'un de ces soldats avait tiré la balle qui a tué Madame Abu Akleh, il ne semblait pas coupable d'un crime, notamment parce que la journaliste se trouvait au moment de sa mort au milieu d'une zone de combat intense. Donc ça veut dire que tous les journalistes qui font des enquêtes sur des guerres, c'est normal qu'ils soient tués un jour ou l'autre parce qu'ils n'ont pas à être là. C'est ça que ça veut dire. L'armée, elle veut surtout pas qu'on parle de ce qu'elle fait. Hein. Un peu comme l'armée russe quand un journaliste français est tué, par exemple. Donc, cette défense, donc, a fait l'objet d'une enquête menée par CNN, notamment à partir de deux vidéos de la scène, d'une analyse audio et de l'expertise d'un professionnel des armes explosives. Donc, cette enquête déconstruit presque entièrement la défense israélienne. Plus, la chaîne américaine affirme même que la journaliste a été tuée dans une attaque ciblée menée par l'armée israélienne. Sur la vidéo, l'ambiance est calme, aucun coup de feu ne se fait entendre avant ceux qui ont touché la journaliste. Un résident du camp de réfugiés, qui était près des reporters ce matin-là, a fait une vidéo de 16 minutes montrant que les rues étaient tranquilles. Il a affirmé également qu'il n'y avait pas de Palestiniens armés ni d'affrontements en cours près des journalistes.
Nous avons fait face aux véhicules de l'armée israélienne pendant 5 à 10 minutes avant d'avancer pour s'assurer qu'ils nous avaient vus, explique une des journalistes présentes, Shatna Ameisha, ajoutant qu'il s'agissait d'une technique commune à beaucoup de reporters dans la région pour signifier qui ils sont aux militaires. D'autres vidéos étudiées par CNN montrent que ces mêmes véhicules sont différents sous différents angles. Ces preuves visuelles incluent les images d'une caméra embarquée sur le torse d'un militaire israélien. On y voit distinctement 5 véhicules militaires garés les uns derrière les autres dans la même rue que celle où la journaliste s'est fait tuer, juste au sud de sa position. CNN a demandé à Robert Maher, professeur et expert judiciaire en analyse audio, d'estimer, à partir des images enregistrées par le caméraman d'Al Jazeera, la distance entre lui et le tireur. Dans la vidéo, le premier son provenant d'ondes de choc au départ de la balle est suivi 309 millisecondes plus tard par un bang quand la balle atteint sa cible. Cela correspond à une distance qui peut varier entre 177 et 197 mètres selon M. Maher, soit presque exactement l'éloignement entre le groupe et les véhicules de l'armée. L'équipe de CNN a géolocalisé la position des forces israéliennes, laquelle a été confirmée par le rapport de l'enquête préliminaire israélienne.
Ce qui montre donc que c'est une attaque ciblée et pas des coups de feu au hasard. En fait, CNN a révélé une dernière information par rapport à l'étude des impacts que les balles tirées vers le groupe de reporters ont laissé sur le tronc d'arbre au pied duquel la journaliste se tenait. Donc, un consultant sécurité de l'armée britannique assure que Shirin a été tuée lors d'une série de tirs distincts et pas par une rafale automatique. Et donc, il rajoute, le nombre d'impacts de balles sur le tronc de l'arbre prouve que ce n'était pas un tir au hasard, elle était vraiment visée. Les impacts étaient groupés. Cette analyse réfute aussi l'argument israélien selon lequel la journaliste aurait été atteinte par des tirs palestiniens. D'autres vidéos du même jour documentent bien des actions violentes montrant des hommes palestiniens mitraillant des rues au hasard à différents endroits de Jénine. Mais en fait, donc ces images ont été partagées par le ministère des Affaires étrangères israélien et le bureau du Premier ministre en affirmant que la vidéo suggérait que ce sont des terroristes palestiniens qui ont tué la journaliste. Mais à partir de la localisation des images, CNN a montré qu'ils étaient à plus de 300 mètres de la position de la journaliste, information qui leur permet d'affirmer que ces tirs palestiniens, dont le gouvernement israélien se sert pour sa défense, ne peuvent pas être ceux qui ont atteint la journaliste et son groupe.
Et Middle East Eye en remet une couche en disant que la journaliste a été abattue par un sniper israélien ce mercredi alors qu'elle arrivait pour couvrir un raid à l'aube dans la ville de Jenin, en Cisjordanie, et la dernière d'une longue liste de reporters palestiniens tués par les forces israéliennes. En avril, une plainte officielle a été déposée auprès de la Cour pénale internationale alléguant que le ciblage systématique des journalistes palestiniens par Israël et l'absence d'enquête sur leur assassinat constituent des crimes de guerre. Les autorités israéliennes ont mené une répression sans précédent contre les journaux locaux, les journalistes locaux, qui tentaient de couvrir les événements violents sur le terrain depuis le début des manifestations palestiniennes à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, et dans tout Israël en mai 2021.
Il y avait une information importante donc qui a été donnée par le syndicat des journalistes palestiniens, qui affirme en fait que les forces israéliennes, depuis la deuxième intifada en 2000, avaient tué plus de 46 journalistes palestiniens. Mais aucun journaliste israélien n'a été tué.
Et aucun journaliste français n'a, lors d'un journal, s'est élevé contre ça, voilà. N'a rendu compte de ces assassinats.
Tout à fait. Donc, là, j'ai entendu aujourd'hui qu'il y a un journaliste français, donc, aussi, qui a été tué par un tir en Ukraine, par un état d'obus.
Là, ça chauffe.
Il y a une enquête qui a déjà été ouverte. Et on va voir si une enquête finit par être ouverte sur l'assassinat de Shirin Abu Akleh.
Alors, bon, un petit renseignement quand même. Nous ne sommes pas journalistes, hein. On est des militants, donc on parle comme on parle.
Tout à fait. Voilà. Et en fait, on reprend des articles. Donc, ce que l'on fait, c'est une revue de presse. On fait une revue de la presse et on utilise des articles comme celui qu'on a utilisé aujourd'hui, de sites qui analysent le rôle et la façon dont les médias retranscrivent les informations. Donc, arrêt sur image, je répète. N'hésitez pas à vous abonner, c'est franchement très...
Arrêt sur image a fait un travail remarquable. Hein.
Tout à fait. Voilà. Bernard.
Bon, eh ben écoute, Jean-Yves, au revoir. Au revoir tout le monde.
Et à bientôt. Prochain.
À bientôt. Jean-Yves, pardon?
Au mois prochain.
Au mois prochain. À bientôt.
Voilà. Au revoir. Bintishalabi.